Voilà, voilà.
Eh bien, ça
bonsoir.
Y est,
c'est toujours donc Guy des Noirs. Et on va commencer par les annonces.
Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je vais y arriver. Donc, on va commencer par les annonces avec quelque chose donc qui doit se passer normalement demain. Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, le 21 novembre dernier, le collectif unitaire de soutien aux migrants avait appelé à un rassemblement. Donc, le 21 novembre dernier, place des Terreaux. Celui-ci avait été interdit par la préfecture la veille en fin d'après-midi. Donc rebelote, hein, nouvelle tentative de rassemblement donc de soutien à toutes et à tous les migrants. Donc ce sera demain à 18h au Terreau, donc à partir de 18h, hein, logiquement de 18h à 20h. Donc ce rassemblement, comme le précédent, a été déposé. Donc il faudra quand même se tenir au courant un petit peu de ce qui se passe dans la soirée et puis peut-être demain. Enfin voilà, on essaiera de faire passer le message le plus possible si jamais ce rassemblement est de nouveau interdit. On aura sûrement la réponse demain dans la journée. En tout cas, bah, tenez-vous au courant de tout ça, tout en sachant que l'appel hein, du rassemblement est un peu le même que celui de la dernière fois. C'est même le même, avec donc un mot d'ordre, hein, liberté de circulation, réfugiés, migrants, vous êtes les bienvenus. Voilà, avec une demande d'ouverture des logements vides, une demande de à la métropole d'assurer l'aide à l'enfance. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. Si vous êtes au courant, voilà, qu'il y a pas mal de monde dehors, qu'il y a aussi pas mal de mineurs ou de jeunes majeurs sans papier qui sont en danger d'expulsion. Il y en a eu encore un ce dimanche dernier. Donc voilà, donc l'appel est à peu près le même que l'autre fois. Les signataires, je vous les refais, donc Atacrone, CGT Vinatier, collectif des étudiants étrangers et étrangères, collectif 69 Palestine, comité d'information pour une Syrie libre et démocratique, coordination des groupes anarchistes Lyon, émancipation, ensemble, FSU, LDH, l'insurgé, lutte ouvrière, le MRAP, 1er et 4e, le MRAP 378, le NPA, OCMLVP, le Parti de Gauche, RESF, Solidaire, Solidaire étudiante, l'UJFP, UPC et Alternative Libertaire. Donc voilà, ça fait quand même du monde. Voilà, donc ce serait bien que ce rassemblement puisse avoir lieu. Voilà, qu'on soit pas interdit une deuxième fois. Et on vous tient évidemment au courant. Voilà, s'il y a interdiction, s'il y a des consignes ou pas. Voilà, tenez-vous au courant. Je pense qu'on mettra tout ça le plus rapidement possible sur un média alternatif que vous connaissez bien. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur celui-ci dans la journée pour vous tenir au courant de tout ça. Donc, voici pour rapport à l'annonce de ce qui va se passer dans la rue. Parce qu'il faut savoir un peu tout ce qui se passe dans la rue les week-ends. Bah, c'est interdit d'office. Voilà, a priori, pendant tout l'état d'urgence. Voilà, il y avait un truc, je crois, pour la Palestine ce week-end, ça a été interdit. Il n'y a que les trucs culturels, caritatifs et sportifs, voilà, qui sont maintenus. Donc peut-être qu'on pensera un jour à faire quelque chose d'autre, tout en sachant que la procession des cathos du 8 décembre est, elle, bien maintenue. Donc voilà, peut-être qu'on pourra faire un jour une procession, voilà, pour les migrants et les migrantes, on ne sait pas.
Organiser un tournoi de football aussi.
Voilà, etc. Donc on verra, on va réfléchir, hein, parce qu'on va pas rester pendant 3 mois sans rien faire, tout en sachant que M. Valls a déjà annoncé peut-être qu'il prolongerait cet état d'urgence, et il faut sûrement s'y attendre. Donc voilà, je vous laisse enchaîner, voilà.
Et bon, on va enchaîner avec d'autres annonces, donc de ce jeudi 3 décembre, avec un débat proposé par la CNT du Rhône, syndicalisme révolutionnaire et lutte de classe face à la mondialisation. Donc tout un programme, évidemment, très alléchant, intéressant. C'est à 19h30 au local de la CNT
On y est arrivé, hein.
L'Union départementale, voilà, j'y suis arrivé. Donc c'est 44 rue Burdeau, hein, ce local, tout le monde le connaît.
Vous connaissez, ouais, à Lyon. Vous y allez les jeudis, hein, pour le petit cafeton, vous allez vous retrouver, quoi.
Entre autres, oui. Toujours ce jeudi 3 décembre, c'est la MJC du Vieux-Lyon aussi qui organise et qui nous propose donc un film de Moïse Cornillo. C'est un film documentaire de Moïse Cornillo et Morgane Zand. Le titre, c'est J'ai pas voté. C'est un débat autour du film, avec un débat donc autour du film, et ça tourne autour de la COP21 en ce moment, en place donc du côté de Paris, là-bas au Bourget. C'est à 20h, donc la MJC, c'est place Saint-Jean à Lyon, dans le 5e arrondissement. Nous passerons tout de suite au vendredi 4 décembre avec ce collectif donc de Lyonnaises qui nous invite à une projection débat sur les violences sexuelles incestueuses. Donc ce vendredi 4 décembre, c'est à 18h30 à l'atelier des Canulars 91 Montesquieu à Lyon, dans le 7e arrondissement. Il y a un film, donc La Conspiration des Oreilles Bouchées, un film de 1989 réalisé par Carole Rousseau-Poulos, qui est une documentariste engagée issue du mouvement féministe des années 70 pour le CFCV, le collectif féministe contre le viol. Il y aura également Longtemps après, donc un autre film de 2013 qui a été réalisé cette fois par Brigitte Lemaine, documentariste et sociologue dont les recherches et films portent sur ceux qui sont privés de parole ou rendus muets par la loi du silence. Voilà, j'en dirai pas plus. Il y a tout un tas de petits fly qui tournent un peu partout, soit à la Plume Noire, soit sur au local de Radio Canu. On passera au samedi 5 décembre avec à Villefranche, là aussi très important, donc à Villefranche-sur-Saône, parce qu'ils en ont bien besoin, les camarades de Villefranche, c'est La Ruche, hein, pour pas les nommer, et donc son marché solidaire pour cette année, en soutien donc à tous les opprimés, c'est de 14h à 18h, avec quelques produits du monde qui nous viennent de la Palestine, du Mexique, et d'ailleurs, comme des peintures, des textiles, des bouquins. Il y aura également de la musique avec Lonesome et Dog, ou D-O-G, je ne sais pas comment on le prononce, Dog, oui, sûrement. Alors La Ruche, eh bien, je l'ai dit, c'est à Villefranche-sur-Saône, rue de Prony.
Voilà, j'étais pas, on avait parlé la semaine dernière, mais comme voilà, ils doivent payer un loyer parce qu'ils refusaient de toucher des subventions, donc forcément pour faire vivre un local, c'est plus compliqué, mais c'est aussi un mode de fonctionnement qui est plutôt bien. Ils hébergent plusieurs autres assos, voilà, ils font vraiment du bon boulot là-bas, du gros boulot, donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à vous rendre du coup au marché solidaire.
Et puis ensuite, toujours ce samedi 5 décembre, c'est La Griffe qui nous propose ça, donc une grosse après-midi apparemment, puisqu'il y aura d'abord une rencontre débat autour du livre Le Mali rêvé, avec l'auteur de ce livre, donc Mohamed Amara. Et c'est à 14h30, et un petit peu plus tard, à 17h30, eh bien, c'est une projection du film documentaire Les années suspendues sur l'autonomie ouvrière en Italie dans les années 60 jusqu'à les années 80. C'est à partir de 17h30, donc La Griffe, hein, c'est 5 rue Sébastien Griffe dans le 7e arrondissement de Lyon. Voilà, vous avez tout un programme alléchant. Et vous avez tout le détail, évidemment, parce que là, j'ai fait simplement un petit détail de ces activités sur Rebellion. Hein, vous allez voir là-bas et puis vous aurez
plus de... La rubrique agenda, puis vous allez
la rubrique agenda.
Ce qui s'y passe. Donc voilà, donc on fera une petite pause musicale tout à l'heure, parce que du coup, on a pas mal de choses à vous dire ce soir, encore une fois. On va forcément faire un point sur ce qui s'est passé dimanche à Paris. On sait que les copains et copines de Canu Info l'ont fait aussi. Mais on va quand même refaire un petit point. Vous n'êtes pas sans savoir donc du coup que l'état d'urgence fait que les manifestations sont pratiquement toutes interdites, et notamment sur Paris. Là, il y avait eu un arrêté pris par le préfet Monsieur Cadeau qui interdisait donc toutes les manifs de vendredi dernier pendant 2 semaines. Là, il vient de prolonger le truc, donc pour faire interdire les manifestations jusqu'au 12 décembre, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la COP21, en gros, quoi, pour pas qu'il y ait de manif au lendemain de la fin de cette COP21. Donc voilà, donc on va voir ce qui s'y passe. Donc les gens sont quand même allés dans la rue, ce qui était plutôt bien. Voilà, à peu près 5000 personnes, entre 5 et 10 000 personnes, bien motivées pour braver cette interdiction-là de l'état d'urgence. Vous savez tout ce qui s'est passé aussi, hein, plus de 300 interpellations, des gardes à vue, et déjà 2 condamnés aujourd'hui, voilà, avec 3 mois ferme sans mandat de dépôt pour une personne et l'autre pour l'autre, 1 000 euros d'amende. Donc on va vous lire un petit peu 2 communiqués de presse, enfin les 2 communiqués du coup de la coordination des groupes anarchistes par rapport à tout ça, et notamment par rapport d'abord à la COP21. Donc la conférence COP21 réunira au Bourget donc du 30 novembre au 11 décembre de nombreux experts et chefs d'État autour de la question du réchauffement climatique lié aux activités humaines. Cette conférence est organisée, financée et animée par les entrepreneurs et politiciens responsables de ce dont ils prétendent nous sauver. Aujourd'hui, même eux ne peuvent plus nier le réchauffement climatique et ses conséquences, parmi lesquelles la multiplication des événements météorologiques extrêmes, une diminution de l'eau potable disponible, un déclin accentué de la biodiversité et la submersion et la disparition de nombreuses côtes et zones d'habitation. La COP21 n'est qu'une conférence de plus, comme les 20 précédentes, malgré une communication beaucoup plus importante en France, afin entre autres de tenter de faire oublier le bilan social catastrophique du gouvernement. Parmi les sponsors, on trouve bien évidemment des entreprises faisant partie du problème, Total, Carrefour, Ikea, Renault, BNP Paribas, EDF, Suez, Déco, L'Oréal, etc. L'exemple du marché carbone permettant aux entreprises de racheter leur mauvais comportement et censé réduire la production de gaz carbonique a montré l'aberration de confier au capitalisme le soin de gérer les problèmes qu'il engendre. Les conséquences ne seront pas les mêmes pour les populations qui verront les diverses écotaxes augmenter et leur comportement individuel montré du doigt. Le PS axe sa communication sur la pseudo-croissance verte. Il ne s'agit donc pas de remettre en cause ce qui a créé le problème, mais bien de continuer à en tirer profit. La construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et la reprise des discussions sur la prospection du gaz schiste nous rappellent le peu d'intérêt qu'ont nos dirigeants pour la réduction des gaz à effet de serre. Il s'agit bien pour eux de se donner une image écologiste tout en continuant à faire du profit comme avant. La situation d'état d'urgence actuelle apparaît comme bien pratique pour interdire les manifestations gênantes. Une manifestation de soutien aux migrants et aux migrantes à Paris ayant bravé l'interdiction a déjà donné lieu à des convocations et possiblement à des poursuites judiciaires. Certaines manifestations dans le cadre de la COP21 sont elles aussi interdites. Il faut nous mobiliser contre cette logique capitaliste qui nous concerne tous et toutes, mais impacte plus les pauvres et à ses conséquences désastreuses. Il faut rappeler les contradictions du gouvernement qui fait l'inverse de ce qu'il dit sur la question écologique. Il faut remettre la question du système de production capitaliste et des États qui en assurent la pérennité au centre des débats écologiques. C'est un système mortifère qui détruit les populations et la planète. Donc changeons le système et pas climat. Ne laissons pas les États et le capitaliste décider à notre place. Donc voilà, c'était le communiqué de la CGA sur la COP21. Et non maintenant un communiqué plus précis, enfin plus précisément sur l'état d'urgence et sur la répression des manifestants et des manifestantes. Ce dimanche 29 novembre, 4000 à 5000 personnes se sont rassemblées place de la République à Paris contre la COP21, grande mascarade écologiste à laquelle participent les dirigeants et dirigeantes des États et des entreprises responsables de la destruction capitaliste de la planète. Elles ont bravé l'interdiction de manifester due à l'instauration de l'état d'urgence et c'est pour cela, contrairement au discours des masses médias qui les caricaturent honteusement, entre guillemets, casseurs, qu'elles ont été réprimées. Pour les empêcher de manifester, une répression des plus brutales s'est abattue sur elles et eux, déchaînement de violences policières, lacrymo, grenades, flashball, etc. Encerclement, contrôle d'identité et aux dernières nouvelles, donc 341 interestations et 317 gardes à vue. Le but est clairement de museler toute contestation sociale et écologiste, comme l'attestent les perquisitions et assignations à résidence de ces dernières semaines dans le mouvement militant. La semaine dernière, le dimanche 22 novembre, des militants et militantes de diverses organisations, dont la CGA, étaient dans la rue pour affirmer leur solidarité aux migrants et migrantes avec pour revendication la régularisation des sans-papiers et plus largement la liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous. Malgré l'interdiction de la manifestation, des centaines de personnes se sont rassemblées à Bastille et une large part d'entre elles ont décidé de manifester jusqu'à Place de République, comme le prévoyait le parcours initial. C'est avec détermination que les manifestants et manifestantes ont repoussé les tentatives policières visant à stopper les cortèges avec des slogans en soutien aux sans-papiers, mais aussi contre l'état d'urgence. Le lundi 23 novembre, donc le lendemain, la préfecture de police annonçait avoir transmis les noms de 58 personnes accusées d'avoir, entre guillemets, bravé l'interdiction de manifester à Paris en défilant en soutien aux migrants et migrantes et contre l'état d'urgence. Plusieurs militants et militantes ont reçu des convocations au commissariat sous ce chef d'inculpation et au moins une personne est poursuivie. Les interdictions de manifestation, intimidation, violence, arrestation, poursuite confirment ce que nous avions déjà exprimé au sujet de l'état d'urgence. Avant d'être un dispositif censé protéger la population d'une menace terroriste, l'état d'urgence est avant tout une aubaine pour le gouvernement pour renforcer sa politique antisociale et sécuritaire. La CGA exige la levée de l'état d'urgence, la fin immédiate de l'interdiction de manifester, l'abandon de toutes les poursuites à l'encontre des militants et militantes arrêtés et la levée des assignations à résidence. Nous continuerons à exprimer notre solidarité de classe par tous les moyens que nous jugerons nécessaires, dont la manifestation. L'état d'urgence souhaite faire taire le mouvement social, ne nous laissons pas faire. Donc voilà pour ce communiqué. Donc de la CGA qui date du coup du 30 novembre, d'avant-hier. Voilà, puis on vous renvoie aussi à l'émission de la semaine dernière. On avait fait un gros point sur l'état d'urgence, sur les différentes mesures que ça impliquait et les risques juridiques pour tout. Voilà, donc on vous renvoie un petit peu à l'émission de la semaine dernière. On vous renvoie aussi, il y a un site qui est pas mal fait là, sur le recensement des joies ou pas de l'état d'urgence en France. Donc c'est la quadrature du net, voilà, qui liste toutes les assignations, les perquisitions, les interdictions de manifestation dans toutes les villes de France. Donc allez-y, c'est assez grand. Enfin, du coup, il y en a de plus en plus. Hein. Tous les jours, il y a des choses qui tombent. Et puis, plutôt une bonne nouvelle, en tout cas une bonne réaction dans un collège de Saint-Denis, car il y a un de leurs collègues donc qui a été arrêté, qui faisait partie des 317 gardés à vue. Et donc du coup, bah, le collège s'est mis en grève. Voilà, après la garde à vue donc de ce collègue-là. Nous, personnel enseignant du collège Henri Barbus à Saint-Denis, réclamons la libération des personnes placées en garde à vue après leur arrestation lors de la manifestation interdite de dimanche. Parmi ces personnes se trouve un de nos camarades et collègues de l'établissement. La manifestation était interdite au nom de l'état d'urgence pour des raisons de sécurité. Pourtant, Les manifestations commerciales drainant autant de monde ne sont pas interdites. Cette interdiction n'était donc pas légitime. L'état d'urgence est un prétexte pour réduire les libertés publiques, individuelles et syndicales et faire taire les voix critiquant la politique du gouvernement. Ce soir, alors qu'une collègue s'inquiétait du sort de notre camarade au commissariat où il est gardé, des policiers lui ont répondu qu'il ne serait pas prêt de sortir, ayant fait des choses très graves et rajoutant que les victimes du Bataclan n'étaient pas les bonnes, que d'autres auraient dû mourir à leur place. De tels propos sont scandaleux et révèlent, s'il en était besoin, les dangers que font courir à la démocratie, l'état d'urgence et l'arbitraire policier. Donc voilà, hein, ils sont sympas ces flics quand même. Hein. Donc voilà, parce que cette bonne réaction du coup de ce collège Barbus, où du coup les élèves ont été envoyés chez eux, quoi. Il n'y a pas eu cours de toute la journée, tous les enseignants se sont mis en grève. Voilà, plutôt une bonne nouvelle. Puis on va refaire, on va reparler du coup un peu d'état d'urgence. Pour vous dire que la France a écrit au Conseil de l'Europe pour alerter qu'elle risque de déroger à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est officiel maintenant, dans le cadre de l'état d'urgence décidé après les attentats. Donc ce gouvernement de gauche, toujours entre guillemets, a lui-même donc envoyé un courrier au Conseil de l'Europe pour l'en informer. Donc voilà, je vous lis le truc. Hein. Les autorités françaises ont informé le secrétaire général du Conseil de l'Europe d'un certain nombre de mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, mesures qui sont susceptibles de nécessiter une dérogation à certains droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc voilà, cet article 15, voilà, où la possibilité d'une dérogation, donc la Convention européenne des droits de l'homme, dont le Conseil de l'Europe est le garant, oblige ses signataires à respecter une liste de droits fondamentaux, donc droit à la vie, interdiction à la torture, interdiction de l'esclavage, du travail forcé, droit à la liberté et à la sûreté, droit à un procès équitable, pas de peine sans loi, droit au respect de la vie privée familiale, liberté de la pensée, de conscience, liberté d'expression, etc., etc. Voilà. Mais l'article 15 de cette convention prévoit aussi une possibilité de déroger à certains de ces droits. Les pays signataires peuvent ainsi prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente convention dans la stricte mesure où la situation l'exige. C'est toujours des termes très vagues, hein. C'est ce qu'on a vu notamment la semaine dernière par rapport à l'état d'urgence. Et donc, et ce uniquement en cas de guerre ou en cas d'autres dangers publics menaçant la vie de la nation. Donc là, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent dedans, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc il y a cette demande officielle qui a été faite. Juste encore pour rappeler que l'état d'urgence récemment élargi et donc est prolongé pour 3 mois et donc sûrement encore pour 3 mois supplémentaires d'après Monsieur Valls, donc donne en effet le droit aux autorités françaises d'enfreindre certaines libertés. Premièrement, le ministère de l'Intérieur a désormais la possibilité d'ordonner des perquisitions, ça on l'a vu aussi, de jour comme de nuit sans passer par une autorité judiciaire. Durant ces perquisitions, les policiers peuvent notamment fouiller et copier toutes les données informatiques qu'ils le souhaitent. Voilà, ce qui en temps normal est jugé contraire au droit à la vie privée. Autre mesure concernée, l'élargissement des assignations à résidence. On a vu qu'il y en avait eu un paquet à n'importe quelle personne pour laquelle il y a, entre guillemets, des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. On est plein quand même dans ce cas-là, donc on va voir si on va devoir rester tous et toutes à la maison. Et puis pour vous donner un petit témoignage de quelqu'un qui a été assigné à résidence, on va vous lire ce petit témoignage avant de faire cette petite pause musicale. Donc c'est une assignation à résidence en Ariège, donc on vous dit tout ça. Le 26 novembre à 17h30, les 3 gendarmes de Montpatelin sont venus chez moi pour me signifier mon assignation à résidence. On m'a laissé un papier signé du ministère de l'Intérieur, le texte entre guillemets légal, invoqué le plus ancien à 10 jours, autant dire que c'était du tout frais. Donc il faut assurer la sécurité de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, dite COP21, et étant donné la gravité de la menace terroriste, des mesures particulières s'imposent, et voilà. Ce sera la seule justification. Il ne faudrait tout de même pas que des écologistes fous et sanguinaires ne viennent à détourner les forces de sécurité, forces répressives, qui sont tant et tant occupées à lutter contre la menace terroriste, c'est-à-dire en réalité à perquisitionner n'importe où et assigner n'importe qui à résidence. Bon, passons sur les détails. En tout cas, je dois pointer 3 fois par jour à 18 km de mon domicile jusqu'au 12 décembre inclus, soit 1728 km. Bonjour le bilan carbone. Le reste du temps, je ne peux pas quitter mon village et mon domicile de 20h à 6h du matin. Il faut encore montrer que moi, hein, j'en suis un d'écologiste fou et sanguinaire, pas de problème, allons-y. Donc c'est le reste du courrier, hein, considérant que Monsieur X donc envisage de rejoindre la région parisienne pendant le déroulement de la COP21. Alors ça c'est tout de même quelque chose, envisage, et c'est tout, pas de preuves, pas d'indices, rien. Puis vient l'énumération de quelques anciens délits mineurs déjà jugés, après quoi on évoque mon milieu, hein, la mouvance contestataire, sans bien sûr oublier que je fais partie d'un groupe d'individus. Il faut bien dire que l'assignation à résidence et le contrôle judiciaire 3 fois par jour, c'est une peine. Ce n'est pas une mesure préventive, c'est une mesure punitive. Ça s'apparente à une peine d'enfermement. En fait, c'est à peu près comme le port d'un bracelet électronique. Cette peine est prononcée sans instruction, sans jugement, sans preuve et même sans infraction. On punit un profil, le mien en l'occurrence, c'est-à-dire qu'on ne me sanctionne pas pour quelque chose que j'aurais fait, mais pour ce que je suis ou ce que je suis supposé être. C'est comme toujours, c'est fait mentionner, ils ont déjà été jugés. On me condamne donc une deuxième fois. Et la prochaine fois sur le papier, y aura-t-il écrit en plus l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence du temps au temps, voilà, pour ajouter des choses. En somme, mon cas s'aggrave tout seul. Un recours au tribunal administratif est possible. La réponse arrive en moyenne sur mon avocat après un an et demi. C'est pas drôle. Donc pour les grossières erreurs de procédure de mon assignation à résidence, par exemple la contradiction entre l'interdiction de quitter ma commune et l'obligation d'aller pointer dans une autre, je ne peux pas me plaindre à personne. Il s'agit d'une sanction sans appel. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de clamer mon innocence. On le sait que définir des innocents justifie la répression des autres, les coupables. Il n'y a pas de coupable ni d'innocent, et ça c'est pas une parole creuse. Quand je pointe à la gendarmerie, il y a d'autres personnes qui sont là aussi, qui ont des barbes, des fichus sur la tête. Je me fous à ce moment précis de leur profil. Je ne peux voir que la brève condition commune qui nous est faite, à savoir que nous sommes réprimés. La répression ne doit pas nous diviser en coupables et en innocents, mais au contraire être l'occasion de témoigner d'une solidarité minimale, que ce soit avec les militants écologistes ou avec les milliers de musulmans qui subissent un enfer permanent. Si mon cas semble ubuesque ou arbitraire ou fou, que dire des centaines de personnes arrêtées, humiliées, assignées, perquisitionnées, enfermées, licenciées depuis le début de l'état d'urgence? Et encore pour moi, ça ne devrait durer que 16 jours, mais pour d'autres, l'assignation est sans limite de temps. La première décision sous l'état d'urgence a été d'interdire les manifestations revendicatives, entre guillemets, hein, mais on maintient les matchs de football, les centres commerciaux restent ouverts et de très nombreux chefs d'État vont se pointer au Bourget. Il s'agit de montrer au monde que tout va bien ici, en France, que la conférence sur le climat va tout régler, le sort du monde et le reste d'ailleurs, et qu'il ne va rien se passer. Il s'agit d'un glissement pour protéger les soi-disant libertés, on les abolit. Le pays des droits de l'homme, entre guillemets, décide de déroger à la Convention, qui fait passer du supposé état de droit à sa version totalitaire et arbitraire, c'est-à-dire dépourvu de droit. En tout cas, tout ce qui est possible nécessairement être essayé, c'est le propre du fonctionnement administratif. Ceci ne veut pas dire qu'il y a des stratégies très élaborées ou précises de la part de l'État, c'est même plutôt le contraire qui est vraisemblable. En tout état de cause, cette logique extensive de la répression est connue, qu'on se souvienne qu'à l'origine les prélèvements d'ADN étaient prévus pour les seuls pédophiles, et qu'à présent ils s'appliquent à tout délit. La répression ne peut rester spécifique, elle a toujours vocation à être générale. Qu'on se souvienne que le plan Vigipirate était prévu pour durer quelques mois et qu'il n'a jamais cessé, la répression ne peut rester temporaire, elle a toujours vocation à être permanente. Il ne resterait plus qu'à dire que depuis que des centaines de musulmans ont été arrêtés, il n'y a pas eu d'attentat, ce qui prouve bien qu'il s'agit d'une mesure efficace. Ne nous habituons pas à la répression, manifestons, soyons solidaires, à bas l'état d'urgence, et donc signé un